moi c'est Sandra, formatrice en alimentation durable, organisation en cuisine et maman d'une tribu recomposée de 6. J'adore tester de nouvelles recettes à base de produits locaux et de saison, mais surtout de les faire déguster à mes enfants. Je kiffe l'organisation en cuisine, surtout le batch cooking et le meal prep, mais surtout, surtout partager tous mes trucs et astuces pour te faire gagner du temps, de l'argent et de l'énergie en cuisine sur Instagram et via mes formations en ligne. Au revoir syndrome du paquet de pâtes ou du frigo ouvert et bienvenue à la planification de ton menu et aux poubelles qui diminuent. Dans ce podcast, on parlera organisation, budget, zéro déchet, anti-gaspillage et surtout cuisiner sans que cela devienne une corvée. Et tout cela dans la bienveillance et la bonne humeur. Alors installe-toi confortablement et prépare-toi à être inspiré. C'est parti pour l'épisode du jour de Allez bien, on cuisine. Bienvenue dans le 34e épisode du podcast Allez bien, on cuisine. Dans cet épisode, je vais te parler de mes 7 astuces pour cuisiner pour une famille nombreuse. Et oui, ici à la maison, on a une famille recomposée avec 6 personnes, donc c'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile. Ça fait beaucoup de courses, ça fait un beau budget nourriture, mais on s'en sort quand même assez bien. Mais avant d'aller plus loin, je voulais te demander quelque chose. Si tu aimes écouter mon podcast, merci de me laisser un 5 étoiles sur Spotify ou un commentaire sur Apple Podcast ou ta plateforme préférée d'écoute. Ça me fait hyper plaisir et ça me booste à fond pour continuer à te créer du contenu comme celui-ci. Merci d'avance à toutes celles et ceux qui prendront le temps de le faire. Allez, c'est parti pour cet épisode où on parle cuisine et famille nombreuse. À la maison, on a vraiment une règle en cuisine, c'est que tout le monde mange la même chose. Je me suis toujours dit que si l'un de mes enfants, parce que moi je ne suis pas ni le barbu, mais si l'un de mes enfants ou de nos enfants était cœliaque, ça veut dire une intolérance à vie et hyper forte au gluten, eh ben on n'aurait tout simplement pas de gluten chez moi. Pour moi, ici, tout le monde a la même chose. Quand ils étaient petits, certains avaient de la nourriture plutôt mixée ou écrasée, mais en règle générale, on mangeait tous la même chose. Ça simplifie la vie de tout le monde. C'est pas parce que quelqu'un aime moins cet aliment ou l'autre qu'il va pas manger. Non, on va tout simplement le laisser de côté. Mais on mange tous la même chose. Pour moi, c'est la règle de base. Et c'est la même chose que ce soit pour les cœliaques ou une autre intolérance ou allergie. Tout simplement, ce produit n'aura pas de place chez moi. Quand on sort de la maison, c'est une toute autre histoire, hein. Mais à la maison, c'est un safe space où tout le monde peut manger de tout, et ça, pour moi, c'est hyper important. Donc, à la maison, tout le monde mange la même chose, et quand les enfants n'aiment pas, parce que ça arrive assez souvent, je leur demande de goûter. Ici, on teste une règle qui marche assez bien, c'est qu'on leur demande de manger une cuillère ou une fourchette selon leur âge. Donc, Esteban, qui a 2 ans et demi, bah lui, il goûte 2 petites fourchettes, et après, c'est bon, il ne doit plus manger. Antonia, c'est 4 fourchettes. Et Hugo, c'est 9 fourchettes. Maintenant, donc, il doit manger un peu plus. Bon, après, parfois, ces fourchettes, elles sont un peu petites. Hein. Ethan, qui a 21 ans, bah, lui, il ne doit plus. S'il n'aime pas, bah, c'est pas grave, c'est un adulte. Hein, donc, on ne va pas l'obliger. Parce que voilà, je me dis que s'il goûte un petit peu, parfois aussi, il goûte et il se rend compte qu'ils aiment bien. C'est ce qui arrive honnêtement le 3/4 du temps, mais s'ils n'aiment vraiment pas, je me dis bah c'est pas grave, ils vont pas manger, ils vont pas mourir de faim, par contre ils auront rien d'autre, donc c'est parce qu'ils aiment pas qu'ils peuvent aller manger un fruit ou autre, non, ils auront rien et c'est pas grave et ils le savent et voilà, ils sont tous en bonne santé. Contrairement à mes parents, je me rappelle que quand j'étais petite, mes parents me disaient toujours « Oui, mais Sandra, il y a des pauvres enfants qui meurent de faim en Somalie. » Et moi, je leur répondais « Quoi ? Tu veux que je renvoie la nourriture par téléfax ?» Voilà, je pense que je fais souvent cette réflexion. Mais ils m'ont un peu traumatisée par rapport à m'obliger de terminer mon assiette. Aujourd'hui, franchement, je ne peux même pas penser à ne pas terminer mon assiette. Je pense que c'était un peu des traumatismes liés à cette époque-là de ma vie. Donc, j'ai pas envie d'inculquer ça à mes enfants. Je sais pas si c'est le meilleur moyen. Probablement que je vais foirer encore plein de choses en tant que parent. Mais c'est pas grave, j'essaye de pas faire les mêmes erreurs que mes parents. Et voilà, petite parenthèse parentale. À la maison, on n'a pas de dessert non plus. Donc, je peux pas jouer la carte de « si tu manges pas, t'auras pas de dessert ». On a plutôt des gros goûters, mais on n'a pas de dessert. Donc, voilà, s'ils mangent pas à table, ben voilà, on clôture le chapitre à table. On va pas le faire passer à un autre moment. Je sais que l'un de mes beaux-frères, s'il ne mangeait pas, il finissait pas son assiette, il devait le manger au prochain repas. Et si le prochain repas, c'était le lendemain, il le mangeait le lendemain au petit déjeuner, etc. Et donc, il a un sacré caractère aujourd'hui. Il ne se laisse pas faire. C'est peut-être lié à ces histoires d'assiettes qui n'ont jamais été finies. Bref. Si une recette n'est pas top top, parce que mes enfants n'ont pas aimé, soit j'essaye une variante quelques semaines plus tard, par exemple. Ici, dernièrement, je fais tremper et germer mon sarrasin. Je l'ai cuit selon une recette que j'avais trouvée en ligne, mais c'était vraiment mouche-mouche. J'ai réessayé 2-3 semaines plus tard. La première fois, on aurait dit une bouillie. Ici, j'ai réessayé avec la moitié de quantité d'eau. Je suis à encore un petit peu trop mouche-mouche. C'est plus de la bouillie, mais c'est pas encore assez croquant. Et donc maintenant, je vais essayer avec le quart d'eau, mais je vais réessayer pas dans 2 semaines, pas dans 3 semaines. Voilà, dans un petit mois, je vais réessayer. J'ai bien noté les quantités. Et donc, c'est pas parce qu'une fois mes enfants n'aiment pas, en sachant qu'ils sont encore jeunes et que leurs goûts peuvent varier. Je trouve qu'à partir de 8 ans, ils sont hyper faciles pour manger. Ils mangent vraiment de tout. Peut-être que j'ai de la chance avec mon fils, je sais pas. Mais du coup, je me laisse pas abattre et vraiment j'essaye sur une cuisson différente, peut-être l'épicer différemment. Voilà, je teste différentes choses. Aussi, ce que je fais, c'est que dans ce cas-là, pendant que je suis en train de cuisiner, je demande à mes enfants de goûter. Et d'habitude, quand ils goûtent, ils adorent. Et d'habitude, quand ils adorent, après, ils mangent tout. Donc voilà, ça dépend aussi du jour. Et je me laisse pas abattre, mais si c'est vraiment une recette où je me dis, ouais, celle-là, pas du tout, moi, je fais des petites notes dans mes livres de recettes pour dire que cette recette, pas du tout, et j'ai une petite base de données sur Notion où je garde mes recettes qui ont vraiment bien marché, et si la recette, elle marche pas, ben, j'enlève tout simplement. Donc ça, c'était ma première astuce pour cuisiner en famille nombreuse, c'est que tout le monde mange la même chose. Deuxième astuce, c'est que très souvent, je cuisine le double ou 1,5 fois les portions. Donc je fais beaucoup parce qu'on achète en grosse quantité, parce qu'on est 6. Et j'ai toujours peur aussi que mes enfants ou mes invités aient encore faim. Donc j'ai tendance à cuisiner beaucoup. Quand l'un des invités, très souvent, le lendemain, on mange encore la même chose, s'il y a des restes. Donc on gaspille vraiment très très peu. On fait très très attention. C'est vraiment mon dada, le gaspillage. D'ailleurs, c'est mon travail de jour. Je travaille, je suis consultante en alimentation durable. Et je travaille beaucoup sur la thématique du gaspillage alimentaire pour l'instant en école. Sinon, les restes vont pour le repas de midi des adultes, vu que le barbu, il est en télétravail 4 jours semaine. Et moi, je suis un peu partout, donc je prends toujours mon petit repas à emporter. Et très souvent, c'est tout simplement des restes du repas de la veille. Aussi, pour les lunchbox des enfants, quand il y en a, c'est encore rare parce qu'ils mangent des repas à l'école. Mais si parfois ils sont en stage ou autre, ils mangent. Je ne vais pas leur faire des tartines, des sandwichs, non, ils mangent les restes de la veille, point barre. Ça me fait gagner beaucoup, beaucoup de temps et de courses. De toute façon, le jeudi ou le vendredi, c'est toujours une soirée tapas de restes. Donc, s'il y a encore des restes, et honnêtement, vu que j'ai l'habitude maintenant et que j'essaye de bien stocker mes aliments, j'ai pas de soucis. Je sais que dans mes formations, je dis toujours garder les repas végétariens, par exemple, 3-4 jours, les repas avec la viande 3 jours, etc. Moi, ici, je suis à 5 jours et ça va. J'ai toujours pas eu d'intoxication alimentaire à la maison, donc ça va. Et donc, une fois par semaine, le jeudi ou le vendredi soir, on a un repas reste où tout le monde mange un peu ce qu'il a envie, ce qu'il a aimé, ce qui reste. Et c'est très bien. Et ça fait vraiment une soirée vide frigo. J'en profite toujours pour passer un petit coup de torchon dans le frigo qui parfois a des choses qui sortent un peu de toutes les couleurs. Donc j'essaye de garder un frigo propre. Et puis aussi, ben, quand t'as 4 hommes dans la famille, dont 2 qui sont en pleine croissance et un très gourmand, je vais vous laisser deviner lequel. On ne sait jamais quand les jours où ils auront une faim de loup et les jours où ils auront une toute petite faim. Donc voilà, on a tous des... tous les enfants ne sont pas là tous les jours. Et donc, je fais simple. Je fais simple, je cuisine plus. Comme ça, on a toujours des restes à manger. Et tout le monde mange la même chose. Donc voilà, ce sont mes 2 règles d'or de base. 3e règle très importante, c'est que j'ai toujours 2 plats en sauce au congélateur. Les plats en sauce sont vraiment mes préférés parce que c'est souvent des plats mijotés qui sont hyper faciles à préparer. En gros, tu mets tout dans une casserole et tu oublies. C'est des plats de type sauce bolo, des dalles de lentilles, pot-au-feu, tagine, blanquette de veau, ragoût, ratatouille, etc. Et ce sont des plats aussi qui se congèlent hyper bien. Donc c'est très pratique. Surtout que quand, bon, à part la préparation des légumes, du coup aussi les courses, bah en gros, tu mets tout dans une grosse casserole et après, tu manges la moitié en frais et l'autre moitié en congelé. Et ça prend pas énormément plus de temps, ça prend pas le double de temps de préparation. Et ça, à chaque fois que je peux gagner 10 minutes ou 1/2 heure en cuisine, eh bien, je prends. J'ai aussi des semaines où j'ai pas envie de cuisiner. Du coup, je sors mes 2 plats du congélateur et voilà. Avec 1 repas de reste en bonus, j'ai plus que 1 ou 2 repas à préparer sur ma semaine. Et parfois, si je fais des pâtes au pesto ou des coquillettes à la crème au petit pois, ben en gros, j'ai qu'un seul repas à faire. Et très souvent, in extremis, je demande au barbu de préparer à manger. Ça va probablement être des pâtes. Et c'est comme ça que je peux, pendant une semaine du lundi au vendredi, ne pas cuisiner du tout. Et ça, franchement, juste savoir que je peux le faire, ça m'aide énormément à juste être plus tranquille et pas trop me prendre la tête pour les repas du soir. Pour servir aussi, c'est des plats qui sont ultra simples. Je cuis soit du couscous, du sarrasin ou du boulgour, ou je lance un riz dans mon curry, pas trop loin. La blague d'huile du moment, de l'épisode, pardon. Je cuis un peu de céréales sur le côté pendant que mon plat il réchauffe, parce que si comme c'est du surgelé, il faut... La seule partie qui est vraiment embêtante, c'est que la veille ou l'avant-veille, il faut le sortir du congélateur, le laisser dégeler dans le frigo lentement. Et puis parfois, ça prend aussi un peu plus de temps à réchauffer, puisqu'il vient de très très froid. Et donc, pendant ce même temps, je fais une céréale qui prend en trois temps... Un temps, trois mouvements ou quelque chose comme ça. C'est prêt. Et franchement, c'est hyper simple. Donc voilà, des plats simples à réchauffer, réconfortants et congelables. C'est le kiff. Donc, quand j'ai envie de cuisiner et que je veux faire un plat en sauce, j'en fais le double et je le congèle. Et pour le stockage, j'utilise des grands saladiers avec couvercle en silicone de chez Duralex. Franchement, c'est le top. Je les ai depuis plusieurs années. Je vous mettrai le lien en description. Non, je n'ai pas de code promo, désolé. Mais c'est vraiment un produit de top, top qualité. Ici, j'en ai cumulé 4. Et je suis hyper, hyper contente. Et j'en ai pas encore cassé un. Donc, je suis encore plus contente. Donc ça, c'était ma troisième astuce, c'est toujours avoir deux plats en sauce au congélateur. Deux, c'est le minimum. Hein. Je peux en avoir 3 ou 4, mais j'ai pas un grand congélateur, donc franchement, ça se limite à 3, grand max. Et d'habitude, c'est 2. Voilà, comme ça, tu sauras tout. Ma quatrième astuce, c'est les semaines où je fais du batch cooking, donc quasi toutes les semaines dernièrement, je prépare mon menu avec les enfants. Comme ça, il y en a pour tous les goûts. Ils ont tous l'impression qu'ils ont le choix. Parce que oui, c'est une impression, vu que c'est moi. Quand je leur demande de faire le menu, c'est toujours moi qui choisis les ingrédients, parce qu'en fait, eux, ils s'en foutent, ou ils savent pas. Ils s'en fichent, pardon. Et donc, ils ont le choix, mais c'est moi qui décide quels sont les ingrédients. Et puis comme ça aussi, je suis sûre qu'il y aura au moins un repas qu'ils vont adorer. Et voilà, très souvent, maintenant, je les connais, hein, mes enfants. Après tant d'années, et donc c'est très facile. Pour vous donner une idée, ma sauce bolo n'a quasi jamais de viande. Mes dalles de lentilles changent de lentilles et de légumes selon la saison. Mes ratatouilles aussi, donc voilà. Très souvent, ils me donnent les mêmes recettes tout le temps. Moi, j'essaye d'adapter, ou parfois, ils oublient aussi. Esteban, qui a 2 ans, il va bientôt avoir 3. Il ne se rappelle pas ce qu'il me dit d'une minute à l'autre, donc ce n'est pas lui qui va se rappeler ce qu'il va manger plus tard. Donc voilà, ça c'était ma quatrième astuce, c'est vraiment préparer mon menu avec les enfants. Place maintenant au sponsor du jour. Cet épisode vous est présenté grâce à La Fourche Bio. La Fourche, c'est un e-shop français de produits bio où on peut acheter, via un système d'adhésion, des produits locaux et en gros conditionnement, comme pour le vrac. Leur but est de rendre le bio accessible et ils travaillent principalement avec des producteurs français et européens. Avec mon code affilié REDBOOTS20, et oui, en utilisant ce code, tu me permets de continuer à créer des épisodes de podcast. Tu reçois 20€ de réduction sur ton abonnement annuel via leur site lafourche.fr. Le code est REDBOOTS20, tout ensemble et en majuscule. Pour découvrir mes produits préférés dont je ne me lasse plus depuis les 3 ans que je suis cliente, rendez-vous sur littleredboots.be/lafourche. Merci encore à La Fourche d'avoir sponsorisé cet épisode. Ma cinquième astuce pour cuisiner pour une famille nombreuse, c'est... utiliser des légumes lactofermentés quand on n'a pas assez de légumes dans l'assiette. Calculer la quantité de nourriture à préparer en avance, c'est pas toujours évident, surtout quand on a des horaires différents. Il faut savoir qu'on a un enfant à l'unif qui revient les week-ends en période de blocus. On a un enfant qui est là la semaine, mais seulement un week-end sur 3 à cause d'une garde partagée. J'ai un mari qui parfois a des réunions le soir. Et moi, je donne des cours du soir 1 à 2 fois semaine. Donc, on fait toujours à manger pour 6. Et les restes seront d'office mangés à un moment donné. Mais c'est pas pour ça qu'on passe à table toujours à 6. Et aussi, parfois, il y a des moments où les enfants, ils ont pris un grand goûter, ou alors ils ont une petite faim, une grande faim. Enfin, voilà. Il y a de tout. Et donc, calculer la quantité de nourriture, c'est vraiment pas évident. Donc, on fait toujours pour 6. Et puis, on essaye. On met tout en place, en fait, pour ne pas gaspiller. Mais parfois, on a aussi des invités surprises. Coucou mes neveux. Et il se peut aussi que je trouve que notre assiette manque un peu de légumes. J'essaye d'éviter d'acheter des légumes en supermarché et notre ferme à cueillette, elle est un peu trop loin pour aller chercher un ou deux légumes en dépannage pour le soir. Bref, ma meilleure solution, celle que j'ai mise en place il y a un peu plus d'un an, c'est de toujours avoir un bocal de légumes lactofermentés à table. Ça se garde des années et en dehors du frigo, donc franchement, c'est le top. Depuis que j'ai commencé à faire mes légumes lactofermentés et que j'ai découvert grâce à mon amie Marie, qui est notre invitée dans l'épisode 17 de ce podcast. Je vais mettre le lien de cet épisode d'interview en description de cet épisode. Eh bien, depuis que j'ai commencé à faire mes bocaux de légumes lactofermentés, franchement, je ne m'arrête plus. Ici, là tout de suite, quand je regarde ma cuisine à côté, parce que nous, on n'a pas de... Comment ça s'appelle ? On n'a pas de cave, on n'a pas d'endroit sombre où garder les bocaux, mais j'ai à côté de ma cuisine un endroit où il n'y a pas de lumière directe. Donc moi, je pense que je suis l'une des seules personnes qui les garde comme ça, mais mes bocaux se fermentent bien. J'ai pour l'instant quasi une trentaine de bocaux de toute taille, mais principalement des moyens, des tailles de 1 litre, remplis de choux. Donc si je regarde maintenant, j'ai des bocaux blancs, c'est du chou blanc, des bocaux foncés, c'est du chou rouge, ou des bocaux un peu plus clairs, c'est un mix de blanc et de rouge. Parce qu'à chaque fois que j'ai des restes, je les mets de côté pour remplir un bocal et j'ai toujours de la saumure à disposition parce que le faire, ça prend un peu de temps. Et donc comme ça, je peux vite... j'essaye de rien gaspiller en légumes crus encore moins. Et donc, mes enfants, j'ai aussi de la chance que mes deux moyens adorent les légumes lactofermentés. Ils en demandent même parfois. Le barbu aussi, il adore, et moi aussi, j'adore. Donc, je peux facilement ouvrir un bocal. Ça va ajouter des belles couleurs, des bonnes vitamines aux assiettes. Même s'il y a un peu moins de légumes crus, vraiment, ça compense tout ça. Ça m'a été vraiment utile ces derniers mois, surtout pendant la période des congés scolaires où tu sais jamais qui va chercher ton enfant, qui tu dois chercher en plus, etc. Et parfois, il y a un enfant en plus qui reste pour un repas. C'est très, très pratique et c'est bon. Il n'y a rien à faire, c'est bon. Et c'est des légumes qui t'apportent énormément pour ton microbiote, etc. Enfin bref, je te laisse écouter l'épisode numéro 17, mais sache juste que les légumes lactofermentés m'aident énormément à rééquilibrer des assiettes ou parfois, même quand c'est par exemple des pâtes sauce au pesto. Voilà, il y a des aromates qui se cachent dans la sauce au pesto, mais c'est pas pour ça que ça va être un plat rempli de légumes. Eh ben, mes enfants vont se servir une ou deux fourchettes de choux lactofermentés ou de carottes lactofermentées, et ils adorent. Et du coup, ça contrebalance un peu le tout, quoi. C'est un peu comme dans les burgers où t'as un micro morceau de cornichon ou t'as un petit morceau d'oignon et tu dis ouais. Il y a des légumes quand même, ou un petit morceau de laitue, ou des tomates qui ne sont pas du tout de saison et qui n'ont pas de goût. Mais ce n'est pas grave, c'est un peu ça, en mieux. Mais voilà, donc les légumes lactofermentés, c'est vraiment mon astuce pour cuisiner pour une famille nombreuse, mais pas que, vraiment pour toutes les familles. Si vous manquez de légumes, n'hésitez pas à tester vos propres lactofermentations. Moi, je reste dans le basique. Hein. Dans le basique, c'est légumes, saumure, point. Parfois un peu graines de moutarde, parfois des aromates. Enfin voilà, je commence à tester, mais je suis très contente juste avec mes légumes et la saumure. Voilà, je pourrais vous parler pendant des heures de la lactofermentation parce que j'adore ça. Mais j'ai une petite surprise pour vous à la fin de cet épisode. Ma sixième astuce pour cuisiner pour une famille nombreuse, c'est avoir des superbes casseroles où je ne dois pas transvaser. En gros, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que déjà, j'ai du bon matos, mais je t'en parlerai dans deux secondes. Mais je choisis toujours des casseroles, des contenants que je ne dois pas transvaser pour servir. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si je vais avoir un service à table, par exemple, je vais servir de ma sauteuse directement à table. Et si je dois stocker les repas, je vais tout mettre dans des contenants en verre qu'après je peux mettre dans le four, parce que sinon je vais avoir tellement de vaisselle. Ok, c'est le barbu qui fait la vaisselle, mais quand même. Et de deux, ça simplifie le tout. Et quand tu as du matos qui te donne envie de cuisiner, c'est encore plus le kiff. Donc moi, qu'est-ce que j'utilise ? J'ai une grande sauteuse rouge en fonte qui pèse 3 tonnes. mais elle est super belle. Un manche en bois et tout ça, c'est Marc Le Creuset. Elle est vraiment superbe. Je sers dedans des shakshuka, des dalles de lentilles, etc. Je vais te mettre le lien en description, comme ça tu auras une idée à quoi ça ressemble. Et franchement, ça me donne, quand j'ai le choix entre deux sauteuses, je vais toujours choisir celle-là parce qu'elle est vraiment très belle, elle est vraiment très, très agréable, elle est en fonte, les choses ne crament pas, c'est vraiment une très bonne qualité et c'est surtout une garantie à vie, donc c'est pas mal. J'ai aussi deux autres grosses casseroles en fonte de plus ou moins 3 litres, donc j'en ai une jaune Le Creuset et une blanche IKEA, et j'avoue que c'est celle de Le Creuset qui me donne encore plus envie de cuisiner parce que voilà. Quand c'est beau, c'est jaune, c'est très facile à nettoyer. Elle est un peu plus grande que celle d'IKEA. Et le couvercle est aussi hyper facile à utiliser. J'ai un petit espace pour mettre ma cuillère en bois, ma spatule en bois, pardon. Donc voilà, c'est du beau matériel qui, entre nous, avait une toute petite micro pointe de petits cercles sur le couvercle où il n'y avait pas de peinture. Et c'est comme ça que je l'ai eu à moins 40%. Bref, comme quoi ça existe aussi du Le Creuset qui est un peu plus accessible. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, j'utilise aussi des saladiers en verre de chez Duralex avec des couvercles de conservation. Ça veut dire que quand je mets mon plat dans le frigo ou dans le congélateur, en fait, c'est avec ce même plat que je vais mettre dans le four et que je vais réchauffer mes plats. Et c'est hyper, hyper pratique. Sinon, j'utilise, si je n'ai pas les couverts de conservation et je sais que je vais mettre mon plat dans le frigo, j'utilise aussi des charlottes pour les récas. Donc, bien enduite à l'intérieur, sinon avec l'humidité que tu as dans des charlottes en tissu, tu as trop de chances d'avoir de la moisissure qui se développe, etc. Donc moi, j'utilise vraiment des charlottes qui sont enduites à l'intérieur et c'est celle que je te conseille dans ma formation Batch Cooking Réussi, dans toutes mes formations. C'est vraiment ce que je conseille, vraiment que ce soit enduit, parce que celles qui sont en tissu 100%, eh ben, vous allez avoir de la moisissure et ça, c'est pas top. Donc j'utilise un maximum d'outils pour me simplifier la vie. Donc la même sauteuse ou casserole pour cuisiner et servir ou pour congeler ou réfrigérer et réchauffer. Ça m'évite donc un max de transvaser. J'utilise aussi beaucoup de contenants rectangulaires en verre de chez IKEA parce que je les trouve très pratiques et économiques, surtout si tu fais plutôt du meal prep ou si tu n'as pas des énormes quantités à stocker. Et ça rentre en plus super bien dans mon frigo et dans mon congélateur qui est vraiment minuscule par rapport au nombre de personnes qu'il y a à la maison. Alors oui, le matériel, ça a un coût. Moi, je m'autorise un grand achat par an. Un an, c'est une sauteuse. Un an, c'est 3 saladiers de conservation de chez Duralex. Un an, c'est une cocotte ou un autre. Un gros investissement de qualité avec une garantie à vie par an. Donc oui, j'en ai pour 150, 200 euros, parfois un tout petit peu plus, mais jamais plus de vraiment 220, 230 euros. C'est ce que je m'octroie. J'achète toujours en période de solde. Pour Le Creuset, comme je te dis tout à l'heure, je vais au magasin Outlet à Lille. Donc ça fait déjà 30-40% moins parce qu'il y a une petite tache où c'est pas bien coloré, où il y a un endroit où la couleur n'est pas totalement homogène. Enfin voilà, des petits défauts que moi, je m'en fiche, que moi, je ne vois pas. Je vois juste que j'ai payé ma cocotte beaucoup moins cher. Et donc, je m'octroie une grande pièce où, dans le cas des saladiers, c'était 3. Une grande pièce par an. Je considère que comme je cuisine beaucoup, beaucoup, ben, c'est quelque chose qu'on peut se payer, surtout que je fais attention à nos courses, etc. Je fais aussi du batch cooking, on gaspille hyper peu et donc je considère que ça nous fait épargner de l'argent et ça c'est un investissement, disons, parce que ce sont des produits de très bonne qualité qui vont durer hyper longtemps, et c'est déjà le cas. Voilà, on a aussi la taille de nos poubelles qui ne font que rétrécir, donc je me dis que ce sont des économies et que, comme pour tout, ben, c'est un investissement, quoi. Et donc, voilà, ce matériel de qualité, vraiment, ça donne encore plus envie de cuisiner. Et je trouve ça vraiment une astuce hyper importante quand tu dois cuisiner pour une famille nombreuse, parce que quand tu cuisines, tu cuisines. Et donc, je lis ça directement à ma 7e et dernière astuce pour cuisiner pour une famille nombreuse. Et ça, c'est de faire en sorte que cuisiner reste un plaisir. Parce que découper des légumes pour 4 recettes pour 6 personnes, franchement, c'est du boulot. Parce que les alimenter 6 personnes, matin et soir, c'est du boulot. J'aime bien mettre des petites carottes ou rendre mes moments en cuisine encore plus agréables. Donc, je m'explique un peu. J'essaye d'écouter de la musique ou des podcasts quand je cuisine. Oui, ça m'arrive même de danser pendant que je cuisine, j'adore ça. J'adore mettre un peu de musique latino pendant que je prépare à manger. Et peut-être qu'un jour, je partagerai ma playlist spéciale cuisine. Je prépare mon menu de la semaine suivante le jeudi avant ou même le mercredi d'avant pour être vraiment tranquille. J'aime bien découper les grandes tâches en plus petites. Donc voilà, j'aime bien préparer mon menu plusieurs jours à l'avance, faire mes courses plusieurs jours à l'avance, etc. Comme ça, je suis plus tranquille. De plus en plus, je laisse mes enfants m'aider pendant que je suis en train de cuisiner. Même si ça veut dire que pour finir, je terminerai ma quatrième recette plus tard ou le lendemain. J'ai vraiment appris à lâcher prise. C'est pas parce que je me mets un objectif de 4 recettes en 2 heures. Si après 1 heure et demie, j'en peux plus ou ça me fait chier, j'avoue. Pas de souci, j'ai déjà préparé les légumes. Rien ne dit que je peux pas terminer ma dernière recette le lendemain, quoi. J'ai vraiment lâché prise là-dessus. Oui, parfois c'est plus facile quand t'as un objectif et t'es très fière après. Mais si ça, je passe. Je me suis rendu compte que j'ai de moins en moins J'aime de moins en moins passer beaucoup, beaucoup d'heures en cuisine. Avant, je pouvais passer 3 heures en cuisine, entre 2h30 de batch cooking et 1 demi-heure pour stocker. Ça me posait aucun problème. Aujourd'hui, c'est 2 heures, voire 1h45. Vraiment, j'ai plus la patience, j'ai plus envie. Comme je passe beaucoup de temps en cuisine quasi tous les jours, ben j'ai pas envie et c'est très bien aussi. Je préfère faire des mini batch cooking, de temps en temps des gros batch cooking, mais voilà, je me suis rendu compte que pour que ça reste un plaisir, que ça me donne envie de revenir, j'ai pas envie de sortir de ma cuisine fatiguée. Et donc ça, c'est très chouette. Je teste de moins en moins de recettes, j'avoue. C'est surtout quand on m'offre un nouveau livre de recettes ou quand j'ai des invités que je teste plein de recettes parce qu'aujourd'hui je les connais beaucoup par cœur, je refais très souvent les mêmes 20-30 recettes avec des ingrédients différents bien sûr. J'essaye de rester plus dans les basiques qui sont un peu des fourre-tout de légumes, des fourre-tout de produits de saison pour les enfants. Ils ont l'habitude, je sais ce qui marche, je sais ce qui marche moins et on suit les saisons et comme ça, ça nous propose pas mal de variétés. J'en reviens au point de tout à l'heure, mais avoir du bon matériel, beau, pour moi ça veut dire aussi coloré. J'ai une cocotte jaune, un peu flashy, j'ai une sauteuse rouge et j'ai encore des petites casseroles rouges qui sont super belles et si j'ai le choix, c'est les premières que je vais utiliser. Par exemple, j'ai aussi un robot pâtissier KitchenAid que j'ai acheté il y a 3 ans. J'ai quand même pris presque 5 ans à décider de l'acheter. Ça m'a coûté presque 1 000 euros, mais franchement, j'utilise mon robot pâtissier 2 à 3 fois par semaine et chaque semaine. Donc, je considère que c'est vraiment un bon achat. En plus, il est couleur un peu rose pastel. J'ai eu en promo à ce moment-là, c'était il y a quelques années, j'ai eu plusieurs bols ultra colorés, super beaux que j'utilise tout le temps en cadeau. Et j'ai aussi pu mettre le nom de mon blog dessus. Donc sur le mien, j'ai un petit Little Red Boots et un petit cœur. Donc je trouve ça trop mignon et ça me donne vachement envie de l'utiliser. Mes enfants, ils trouvent ça trop mignon aussi. Donc avoir du bon matériel, même si parfois ça coûte très cher, c'est vraiment hyper intéressant. Ou alors tu fais, comme j'en parle dans ma formation Batch Cooking Réussi, tu calcules tout l'argent que tu as épargné grâce au batch cooking et tu utilises cet argent après 2, 3, 6 mois, 9 mois, 1 an, 2 ans pour acheter du bon matériel. Parce que tu te dis, je l'ai épargné, donc autant l'utiliser pour autre chose, pour quelque chose qui me fait plaisir. Ça peut être des vacances, ça peut être aussi un robot pâtissier, pourquoi pas. Mon prochain achat sera probablement un Vitamix. J'ai envie d'acheter ce Vitamix, ce blender depuis 4-5 ans parce que j'ai un blender ultra pourri qui commence à fuiter. Et ça fait depuis 2 ans que je dis à mon mari à chaque fois, je vais en acheter un autre, je vais en acheter un autre, je vais en acheter un autre. Mais j'attends vraiment que le mien meure, je pense. Ou le prochain Black Friday pour acheter un bon Vitamix avec tous les petits accessoires. Mais voilà, ça c'est mon gros achat. Donc j'y pense pendant longtemps, j'y pense beaucoup. Mais c'est ça aussi, je sais que dès que je l'aurai, je vais faire des sauces de dingue. Mes soupes seront enfin lisses, pas avec des petits morceaux, des petits grumeaux, comme disent mes enfants qu'ils aiment pas. Donc voilà. C'est avoir du bon matériel, ça change vraiment tout, ça devient un vrai plaisir. Et la réalité, c'est que j'ai pas toujours envie de cuisiner. Donc parfois, on va au McDo ou un fast-food ou à la friterie, parce que c'est ça aussi la vie, c'est se faire plaisir et faire plaisir aux autres. Et c'est comme ça aussi que je trouve mon équilibre et que j'ai pas toujours envie de cuisiner. Et voilà. Donc ça c'est ma petite réalité et ça c'était mes 7 astuces pour cuisiner pour une famille nombreuse mais qui sont aussi, je me rends compte, totalement utilisables pour des familles qui ne sont pas nombreuses. Donc récapitulatif de mes 7 astuces. 1. Tout le monde mange la même chose. 2, je cuisine le double ou 50% de plus de portions. 3, j'ai toujours 2 plats en sauce au congélateur. 4, je prépare mon menu de la semaine avec mes enfants. 5, j'ajoute des légumes lactofermentés quand j'ai pas assez de légumes dans mon assiette. 6, j'investis dans du matériel de qualité. Et 7, je fais en sorte que la cuisine reste un plaisir. Avant de terminer cet épisode, je t'avais dit que j'avais une petite surprise pour toi. Je voulais te partager ma recette simplissime pour faire des bocaux de légumes lactofermentés parce que ça fait un petit temps que je ne savais pas partager une recette en fin d'épisode. Tu es prête ? C'est parti ! Au niveau du matériel, tu auras besoin d'un bocal propre, passé au lave-vaisselle, c'est suffisant, mais il faut que ton bocal ait une fermeture à joint parce qu'il y aura des petites bulles de fermentation qui vont sortir, etc. 2, tu as besoin de la saumure à 2 ou 3%. Par exemple, tu vas faire bouillir 1 litre d'eau avec 3% de son poids en sel, c'est-à-dire 30 grammes. Donc si tu préfères une saumure à 2%, tu peux utiliser 20 grammes. Moi, j'utilise toujours 30 grammes. Il faut cependant attendre que l'eau soit à température ambiante pour ne pas tuer tous les microbes. Donc soit tu attends, soit tu utilises ma petite astuce. C'est par exemple si tu as besoin d'un litre de saumure, tu vas faire bouillir, soit tu fais bouillir 1 litre d'eau avec le sel et tu attends que que la température diminue. En gros, tu mets ton doigt dedans et si tu ne sens plus la chaleur, ça veut dire que c'est la température de ton doigt, température ambiante, c'est bon. Ou alors, tu vas faire bouillir environ un quart du volume d'eau, ça veut dire 250 ml. Donc, tu fais bouillir ça avec 30 grammes de sel. Donc, dès que ça passe à ébullition, tu coupes le feu et tu laisses tranquille. Et tu ajoutes 750 ml d'eau. Et comme ça, tu verras que ça va refroidir beaucoup, beaucoup plus vite et tu auras déjà ton eau salée avec la bonne quantité de sel. En fait, il faut attendre l'ébullition pour que le sel se dissout dans l'eau. Donc, tu as ta saumure, tu as ton bocal propre, il ne te manque plus que des légumes, un ou plusieurs légumes râpés, minces et hachés, comme tu veux. Moi, j'utilise toujours une mandoline parce que je trouve ça hyper facile. Pour un bocal d'environ 1 litre, je peux mettre environ... je dirais un beau chou rouge de taille moyenne coupé à la mandoline. Donc j'ai des morceaux un peu effilochés comme ça. Et en fait, comment ça se passe ? Donc tu remplis ton bocal de légumes. En gros, tu mets une petite poignée, tu l'aplatis très fort pour bien entasser au fur et à mesure que tu ajoutes les légumes. Parce que l'idée, c'est qu'il y ait le moins d'air possible. Comme ça, tu auras plus de fermentation. Une fois que ton bocal est rempli, quasi à ras-bord, tu ajoutes la saumure petit à petit. Tu verras que les petites bulles d'air, enfin qu'il y a des petits espaces d'air vont se remplir de saumure, donc tu auras des petites bulles qui vont monter, c'est normal. Donc tu vas ajouter de la saumure jusqu'à arriver au ras des légumes, tu fermes ton bocal, tu notes la date dessus et tu attends minimum 3-4 semaines. Les premiers jours, tu vas avoir des petites bulles ou peut-être du jus qui va sortir. C'est normal. C'est pour ça que la première semaine, je mets toujours mon bocal dans une assiette creuse ou sur un essuie. Comme ça, ça va dégouliner dessus. Après, je nettoie un petit peu et là, après, je peux le ranger. Attention aux taches de betterave et de chou rouge parce que ça tache. Tu peux ranger ton bocal dans la cave, dans un placard. Comme j'ai dit, moi, j'ai pas de cave, j'ai pas de placard disponible. Donc, je mets tout dans un petit coin de ma cuisine, loin du soleil direct. Et pour l'instant, jusque-là, j'ai toujours eu des bocaux super bien fermentés. Après tes 3-4 semaines ou jusqu'à plusieurs années, tu peux les oublier et te rappeler l'année prochaine que tu as des bocaux lactofermentés, c'est si possible. Et ben, tu ouvres ton bocal. Comme c'est du verre, tu verras tout de suite s'il y a des moisissures. S'il y a une moisissure, là, tu ne te poses pas la question, tu jettes. Et sinon, si tout va bien, tu le sentiras l'odeur. Tu peux déguster tes bons légumes. Une fois ouvert, tu dois ranger ton bocal au frigo. Et c'est tout. Bon appétit. Et ça, c'était l'épisode du jour de Allez, viens, on cuisine. En description de cet épisode, tu trouveras toutes les ressources dont je t'ai parlé pendant cet épisode. Et si tu as aimé cet épisode, merci de me laisser un 5 étoiles ou un avis sur mon podcast, sur Apple Podcast ou ta plateforme préférée d'écoute. Ça me booste pour te continuer à créer ce type de contenu. Allez, rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode.